tout de suite votre journal. Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
6h sur Europe 1, bon réveil.
Les territoires d'outre-mer sont des territoires de petite taille, donc le système hospitalier y est aussi plus fragile. Il n'y a pas de capacité, quand on a une difficulté, de déborder sur un territoire voisin ou sur une région voisine qui serait moins exposée.
Les conditions d'entrée sur les territoires ultramarins se durcissent à partir d'aujourd'hui. Isolement obligatoire pendant 7 jours pour les voyageurs qui arrivent aux Antilles ou à La Réunion. Coup d'envoi aujourd'hui de la vaccination pour les plus de 75 ans hors EHPAD et les personnes atteintes de pathologies graves. Mais y aura-t-il assez de vaccins partout et pour tout le monde? C'est ce qui inquiète certains médecins. Alexei Navalny a passé la nuit derrière les barreaux. Le principal opposant au pouvoir russe a été cueilli par les autorités dès son arrivée à Moscou hier soir. Aux États-Unis, J-2 avant l'investiture de Joe Biden. Vaccination, économie, climat, le président élu va se mettre au travail dès sa prise de fonction. Dans ce journal, l'entrée en bourse ce matin de Stellantis, le nouveau groupe issu de la fusion entre Fiat Chrysler et PSA. Et puis la disparition de l'ancien producteur américain Phil Spector, son portrait à la fin de ce journal.
À suivre les sports avec Jérôme Lacroix et mon invité inattendu qui est un grand amateur de tennis. Il sera avec nous alors que l'Open d'Australie va démarrer dans quelques jours. Il est surtout mondialement connu comme DJ et il arrive souvent d'ailleurs à combiner ses deux passions. Bon réveil à tous, 6h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La campagne de vaccination s'élargit aujourd'hui en France. Les plus de 75 ans qui vivent à domicile et les personnes atteintes de pathologies lourdes sont concernées, soit près de 6 millions de nouveaux candidats potentiels. Et sauf que le nombre de doses qui arrivent chaque semaine reste le même, 500 000. Résultat, des médecins craignent un manque d'approvisionnement et s'inquiètent des disparités entre les territoires. Jean-Paul Ortiz préside la Confédération des syndicats médicaux français.
Les zones rurales, souvent, sont proportionnellement plutôt mieux dotées que les zones urbaines. Il y a une logistique et une organisation sur le terrain qui se met en place assez facilement dans les zones rurales avec les médecins libéraux, les médecins généralistes, les médecins spécialistes du coin, en lien avec les collectivités locales. À l'inverse, dans les zones urbaines, on voit bien qu'il y a des délais de rendez-vous qui sont souvent très importants parce que probablement les dotations sont un peu insuffisantes. Mais vous savez, c'est le début de la vaccination. J'espère que dans les semaines qui viennent, cette tension qu'on ressent aujourd'hui sur l'approvisionnement en vaccins va s'améliorer et on pourra plus largement et progressivement vacciner toute la population qui le souhaite. C'est très important.
Jean-Paul Ortiz avec Nicolas Feldman. Pour l'heure, un peu plus de 420 000 personnes ont été vaccinées en France.
Dans les territoires d'outre-mer, l'inquiétude grandit après la découverte de 4 cas du variant sud-africain à Mayotte, un autre à La Réunion.
Les autorités locales prennent les devants et durcissent les conditions d'entrée sur leur territoire. À partir d'aujourd'hui, pour venir en Martinique ou en Guadeloupe, les voyageurs devront s'isoler pendant une semaine avant de réaliser un test PCR. Stanislas Gazel, le préfet de Martinique.
Les territoires d'outre-mer sont des territoires de petite taille, donc le système hospitalier y est aussi plus fragile. Il n'y a pas de capacité, quand on a une difficulté, de déborder sur un territoire voisin ou sur une région voisine qui serait moins exposée. Dans l'Hexagone commence à circuler le variant anglais, qui est extrêmement contagieux. Et comme le territoire de la Martinique, comme la plupart des territoires d'outre-mer, sont pour l'instant relativement protégés, avec un taux d'incidence qui est en dessous du seuil d'alerte, nous avons ces mesures d'isolement qui évitent l'introduction d'un variant plus contagieux que les autres. Ces mesures auront sans doute un effet sur les personnes qui avait prévu de venir passer une semaine de vacances. Effectivement, il peut y avoir des annulations de voyage. Un certain nombre de professionnels du tourisme auront besoin d'être soutenus. Donc nous maintiendrons un dispositif d'accompagnement à chaque fois que c'est nécessaire.
Le préfet de Martinique, Stanislas Cazel, joint pour Europe 1 par Diane Berger. Le projet de loi séparatisme, rebaptisé projet de loi confortant le respect des principes de la République, sera examiné à l'Assemblée à partir d'aujourd'hui. 51 articles et plus de 1700 amendements à décortiquer. En parallèle, le CFCM a adopté hier sa charte de principes de l'islam. Ses dirigeants seront reçus par Emmanuel Macron aujourd'hui.
L'actualité à l'étranger, c'est l'arrestation d'Alexei Navalny hier soir, dès son arrivée à Moscou.
Le principal opposant au Kremlin, rentré d'Allemagne où il était soigné depuis le mois d'août après son empoisonnement présumé. Paul Gogo, vous êtes en ligne de Moscou pour Europe 1. Où se trouve Navalny actuellement ?
Eh bien, Alexei Navalny se réveille ce matin dans la cellule d'un petit commissariat de la ville de Rimki, en périphérie de Moscou. C'est dans ce commissariat, proche de l'aéroport où l'opposant a atterri hier soir, que débute sa détention provisoire. Il restera enfermé jusqu'au 29 janvier prochain, le temps que la justice étudie son dossier. L'opposant pourrait écoper de 3 ans et demi de prison. Il lui est reproché de ne pas avoir respecté les termes d'une peine avec sursis à laquelle il a été condamné en 2014. Quelques minutes avant son arrestation, dimanche soir, Alexei Navalny se montrait pourtant plus déterminé que jamais.
Je ne peux pas dire que j'ai dû réfléchir entre rentrer ou ne pas rentrer. Cette question ne s'est pas posée, pas une seconde. Mais cette situation montre de quelle manière il faut se battre ici.
Si Alexei Navalny a décidé de rentrer en Russie malgré les risques encourus, c'est parce qu'il se verrait bien en figure incontournable de l'opposition russe, déterminé à participer un jour à une élection présidentielle. Enfermé ou libre, l'opposant et ses proches se donnent un objectif pour les mois à venir, miner les prochaines élections législatives. Elles auront lieu en septembre prochain et les candidats du pouvoir pourraient être mis en difficulté.
Paul Gogo, correspondant d'Europe 1 à Moscou.
Et nous retournerons en Russie tout à l'heure pour notre revue de presse internationale à 7h10. Bientôt le début d'une nouvelle ère aux États-Unis. Dans deux jours, Joe Biden sera investi à la Maison-Blanche, devenant officiellement le 46e président américain.
Et après un mandat tumultueux signé Donald Trump, le président élu a déjà prévu de prendre des premières mesures dès sa prise de fonction, Alexis Guilleux.
Oui, Joe Biden veut rapidement tourner la page des années Trump, réparer les dommages de l'administration républicaine et faire avancer le pays. Voilà l'objectif de ses premières mesures, selon le directeur de cabinet du futur président. Il y a d'abord le plus symbolique, la lutte pour le climat. Le président démocrate prévoit de réintégrer les États-Unis dans l'accord de Paris, traité qu'avait quitté Donald Trump quelques mois après son entrée en fonction. Autre priorité annoncée par la future administration, un changement radical de politique migratoire avec l'annulation du Muslim Ban, cette interdiction de voyager pour les ressortissants originaires de plusieurs pays à majorité musulmane, une mesure prise par Donald Trump dès le début de son mandat. Enfin, Joe Biden veut afficher ses différences avec son prédécesseur sur la lutte contre la pandémie, avec d'abord le port du masque obligatoire dans les bâtiments fédéraux et lors des déplacements entre États dans les bus, trains et avions. La nouvelle administration mettra également l'accent sur la vaccination, avec l'objectif de 100 millions dans les 100 premiers jours du mandat, afin de lutter contre la propagation du virus qui fait encore plus de 3000 morts par jour aux États-Unis.
Alexis Guilleux à New York pour Europe 1. Et toujours aux États-Unis, le New York Times révèle que plusieurs proches de Donald Trump auraient reçu récemment des dizaines de milliers de dollars contre de potentielles grâces présidentielles. Un ancien conseiller de la campagne de Trump aurait par exemple reçu 50 000 dollars de la part d'un ancien officier de la CIA.
6h08 sur Europe 1. Il est entré en bourse aujourd'hui d'un nouveau géant, le nouveau groupe Stellantis.
D'abord à Paris et Milan ce matin, puis New York demain. L'ensemble issu du mariage entre PSA et Fiat Chrysler est en passe de devenir le quatrième constructeur automobile mondial avec ses 14 marques. Certaines d'entre elles sont très dynamiques, d'autres ont plus de difficultés, comme Fiat qui va d'ailleurs tirer profit de ce rapprochement, Aurélien Fleureau.
Oui, puisque Fiat ces dernières années, c'est le retour réussi de la Fiat 500 et c'est à peu près tout. Très peu de nouveaux modèles, des usines encore très axées sur les moteurs thermiques, à tel point que le constructeur italien a dû acheter à Tesla des crédits CO2 pour ne pas payer d'amende en 2020, relancer la marque, en faire la tête de pont de Stellantis pour le marché européen, avec Peugeot bien sûr. Ce sera l'un des premiers défis à relever pour Carlos Tavares, le grand patron de ce nouvel ensemble, selon José Bagdad, expert automobile chez PwC.
Fiat était peut-être le point faible de FCA, dans la mesure où il y avait eu peu d'avancées technologiques et de modernisation des usines, donc il y avait un retard certain pour l'électrique. Cependant, Fiat a cette image très forte. C'est l'enjeu du groupe de faire en sorte de continuer à faire briller la marque Fiat qui reste dans l'imaginaire de tous, une marque emblématique, romantique à certains égards.
La marque italienne devrait être parmi les premières à bénéficier à plein des synergies permises par cette fusion. Un petit SUV Fiat verra le jour en 2023 et il devrait sortir d'une plateforme PSA utilisée pour l'instant pour les modèles 208, C3 ou Corsa.
Aurélien Fleureau, spécialiste transport d'Europe 1.
On termine avec la mort du producteur américain Phil Spector, disparu hier à 81 ans.
Producteur notamment des Beatles, pour ne citer qu'eux. Il a été très populaire dans les années 60, avant de se retrouver derrière les barreaux pour meurtre en 2003, jusqu'à la fin de sa vie. Son parcours avec Jean-Jacques Herry.
Au début de l'histoire, il y a un petit bonhomme malingre qui n'aime pas l'école et qui lui préfère la guitare et le piano. Son premier titre, le jeune Harvey Philip Spector, l'enregistre en 1958 avec des copains. To know him is to love him. Coup d'essai, coup de maître est déjà le sommet des charts. Spector n'a que 21 ans, il est millionnaire et il arrête de chanter. Car désormais la musique qu'il va la produire, il invente le mur de son qui devient sa légende avec des instrumentations doublées en studio pour plus d'intensité. Après l'Unchained Melody des Righteous Brothers, on s'arrache le génie. En 1970, on l'appelle auprès des Beatles. Paul, Ringo, John et George veulent se séparer, mais juste avant, dans une ambiance absolument détestable, le sorcier Spector leur arrache un dernier album. Let it be, let it be. Mais le vent tourne et il amène une odeur de soufre, car travailler avec Phil Spector, c'est aussi subir sa bipolarité. Un jour, il menace Leonard Cohen avec une arbalète. Un autre, il braque un pistolet sur le bassiste des Ramones. Son aura s'étiole, l'homme disparaît peu à peu des consoles. Lorsqu'on le retrouve en 2003, c'est à la rubrique Faits divers. Accusé du meurtre d'une actrice, il est condamné à 19 ans de prison. C'est là qu'il est mort hier, loin, très loin de son ancienne carrière.
Le portrait de Phil Spector signé Jean-Jacques Herry.
Dans le journal de Sophie Hachène, sur Europe 1, 6h11.